répondre à la violence par la violence. Observer ses camarades de lutte, ses amis ou même des inconnus se faire prendre à partie publiquement, que ce soit virtuellement ou sur le terrain, nous laisse à penser que nous sommes tous et toutes sur la sellette. Cela nous enseigne que même si nous dédions beaucoup de notre temps et de notre énergie à une cause, nous pouvons pourtant être exclus du jour au lendemain. Cette situation crée un climat anxiogène qui rejoue pour certaines un environnement familial ou professionnel instable et précaire. Dès lors, tout le monde finit par surveiller son ou sa voisine, tout comme soi-même, avec une certaine méfiance. Plus encore que de la méfiance, de tels mécanismes intracommunautaires créent un contexte dans lequel nous ne savons pas répondre à la violence, autrement que par la violence. Une erreur lexicale est sanctionnée par des insultes ou des violences sont sanctionnées par du harcèlement. Nous nous ancrons dans la colère, la peur ou la tristesse, plutôt que dans la volonté de désescalader ou d'aider les parties. Là-dessus se développe une vraie crainte, celle que tout n'aille pas bien sans cesse. Du coup, plus rien ne se passe et tout est neutralisé. Chaque désaccord ou conflit est étouffé sous une épaisse couche de contrôle et de peur, sans être explicité ni discuté. Les idées nouvelles et les paroles discordantes, pourtant essentielles dans l'idée de mouvement politique, sont enfouies. De nombreuses initiatives s'éteignent avant même de voir le jour, par peur de mal faire ou de se voir attaquer. Tel festival n'a finalement pas lieu parce que la communication en amont a posé problème. Tel projet d'entraide n'a pas été mis en place parce qu'il a été impossible de dépasser un désaccord politique en interne. Ce type de réaction traumatique peut entraîner une paralysie de groupe. Taire les dissensions crée une illusion de bienveillance, de soins et de sécurité qui ne correspond pourtant pas à la réalité. Tout groupe rencontre des conflits. La violence est inhérente à nos rapports. Si nous avons la conviction d'être dans un espace safe, nous pouvons être d'autant plus blessés quand nous nous rendons compte que ce n'est pas le cas. Au lieu de prétendre le contraire, nous devons apprendre à faire face, à nommer nos désaccords. Il faut pouvoir parler des incompréhensions et de nos idées les plus problématiques pour pouvoir les analyser et les rendre fécondes. J'ai moi-même fini par rompre avec tous les collectifs que j'ai traversés parce qu'à force d'en être témoin, j'ai été terrifiée par ce qu'un groupe peut faire à ses membres. J'ai fini par oublier ce que le collectif peut aussi produire de meilleur et de beau. Aujourd'hui encore, quand je reviens dans un groupe, j'ai tendance à vouloir contrôler les échanges afin d'éviter tout conflit ou blessure. Je sais pourtant qu'ainsi j'interromps des discussions qui auraient pu être éprouvantes, certes, mais enrichissantes sur le long terme. Éviter ce genre de comportement pourrait permettre d'adresser nos traumatismes liés au collectif, car le groupe peut être un bon support pour les dépasser. Ces fonctionnements individuels façonnent nos manières d'agir en tant que groupe, tout autant que le fonctionnement du groupe influence les individus. Ce contexte de méfiance, d'épuisement militant et de souffrance individuelle et collective est particulièrement favorable à la prolifération des pratiques punitives. Plus que de simples agissements individuels, c'est un véritable système punitif qui est développé au sein des milieux militants. Une surenchère punitive. Dans des espaces où il est admis que le recours à la police en cas de violence n'est pas la solution, mais plutôt un problème supplémentaire, le risque principal consiste à n'avoir aucun relais extérieur pour dénoncer les injustices qui s'y déroulent. Cela est encore plus dangereux quand on parle d'abus exercés par le groupe sur un individu, par exemple dans le cas d'un harcèlement collectif. Les espaces féministes, queer, autonomes ou plus largement abolitionnistes constituent en ce sens un cocktail détonnant. En mêlant rejet de la police et huis clos, constitués par des personnes qui cherchent à rééquilibrer les injustices sociales au sein même de leur groupe, le contexte est favorable au déroulement de nombreux excès, et ce dans une relative impunité. Quand la société nous paraît trop violente, nous pouvons avoir tendance à nous replier sur les communautés et les personnes qui sont a priori censées nous faire du bien et être source d'empowerment individuel. L'espace militant constitue parfois le seul où l'on se sent à sa place, ce qui peut développer un sentiment d'appartenance et la sensation d'un pouvoir individuel et collectif. Si ces sentiments sont bienvenus, ils peuvent aussi devenir dangereux dans le cadre d'un règlement de conflit. J'ai observé de nombreux groupes dépassés par leur propre puissance et leur capacité de nuisance. Quand le groupe élabore des justifications morales ou politiques communes pour appuyer sa démarche, la conviction collective d'être dans son bon droit et d'exercer une juste autorité se renforce. ce qui favorise les pires abus sans que personne ne puisse rien dire ou faire. Comme le note le psychosociologue Didier Anzieux sur les dynamiques collectives, il existe un phénomène de réaction en chaîne entre la frustration que certains groupes peuvent ressentir et la violence qu'ils mettent en œuvre contre certaines de leurs membres. La frustration des groupes militants se développe face aux nombreux obstacles politiques, économiques et écologiques rencontrés. Cette frustration crée de la colère, dont l'une des parades est de localiser l'agressivité sur une personne, un sous-groupe qui la reçoit en dépôt sans y contre-réagir agressivement. Nous faisons aujourd'hui face, dans certains milieux militants, à ce que nous pourrions considérer comme la désignation de bouc émissaire à des fins cathartiques collectives. Didier Anzieux conclut « J'ai moi-même décrit sous le nom d'illusion groupale l'état d'un groupe qui est si parfaitement satisfait de lui qu'il va jusqu'à dénier, contre les faits eux-mêmes, sa propre agressivité. Il est particulièrement difficile de dénoncer l'aspect systémique des violences qui se jouent dans les milieux minorisés sans connaître une certaine levée de boucliers. Pourtant, ces violences existent et les reconnaître permettrait probablement de les dépasser. Qu'on parle de remontrance et de critique publique, d'exclusion ou encore de harcèlement, l'arsenal punitif venant se substituer à l'arsenal juridique est tout aussi fourni et varié. Le constat est amer. Ce que nous nous affligeons entache l'énergie de nos luttes et marque les personnes qui s'y sont investies de façon durable. Il est difficile de se figurer jusqu'où peuvent aller les violences en contexte militant sans y avoir été directement confronté, soit en accompagnant une personne qui en est victime, soit en en étant soi-même victime. J'ai vu ces violences s'exercer de manière similaire dans des espaces aussi variés que les milieux écologistes, anarchistes, féministes, queer, antiraciste, etc. Les récits que je vais aborder concernent donc des militantes des milieux progressistes. Pour des raisons de confidentialité et d'anonymisation, ils sont chacun constitués d'un assemblage de plusieurs histoires, et les noms ont été modifiés. Pour autant, les dynamiques à l'œuvre ont été respectées, et les faits décrits se sont réellement déroulés. Ces exemples ne sont pas racontés des différents points de vue, ces récits sont donc partiels. Situation similaire à ce qu'il se joue dans la vie, quand une personne vient nous raconter son vécu ou que nous vivons nous-mêmes une situation de conflit. Nous ne disposons jamais de tous les éléments. En ce sens, il est important de suspendre son jugement sur qui a raison et qui a tort, même s'il est possible de produire une critique des mécanismes en jeu. Il s'agit ici de se rendre compte de l'ampleur des dégâts pour ensuite pouvoir penser des alternatives.